9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour à tous, les maires en première ligne dans l'opération déconfinement, écoles, cantines, transports, lieux publics, mesures d'hygiène. Jamais sans doute dans l'histoire récente, les maires n'avaient porté de si lourdes responsabilités. Agnès Lebrun, la maire de Morlaix dans le Finistère qui prépare la rentrée de ses 6 écoles publiques, sera notre première invitée. Comment seront les enfants? Comment rattraper ces 2 mois d'école perdue et raccrocher les décrocheurs, ces élèves qui ont réellement perdu contact avec leurs enseignants? Avec nous, une directrice d'école du 20e arrondissement de Paris, Pauline Grois, et un prof d'histoire géo d'un collège de Seine-Saint-Denis, Yanis Roder. Enfin, au générique de C'est arrivé cette semaine, une philosophe, académicienne, spécialiste du langage, Barbara Cassin. Avec elle, nous verrons ce que disent les mots de cette crise. Confinement, première ligne, brigade, et aussi comment marier les lieux de culture toujours à l'arrêt avec cette école qui redémarre.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine.
Bonjour Agnès Lebrun.
Bonjour Patrick Cohen.
Vice-présidente et porte-parole de l'Association des maires de France, maire d'hiver droite de Morlaix, dans un département, à une région, la Bretagne, très peu touchée par le Covid. L'hôpital de Morlaix a même accueilli 2 patients parisiens en réanimation après un transfert par TGV. Quel est l'état d'esprit des habitants aujourd'hui d'abord? Que vous disent-ils?
Eh bien, ils se disent qu'ils ont eu de la chance. Ils se disent que finalement, ce qui parfois est un handicap pour nous, c'est-à-dire l'éloignement des centres d'activité, était un bouclier et nous a épargnés. Et puis, ils ont hâte. Ils ont hâte de reprendre la vie économique. Ils ont hâte de reprendre aussi leur rythme avec peut-être une sorte de frustration. Et ils sont aussi très inquiets puisque, évidemment, le marasme économique est devant nous.
Oui, il y a à la fois du soulagement et de l'appréhension.
Exactement. Exactement. Et par contre, ils sont très courageux. C'est-à-dire que les commerces, par exemple, depuis 2 jours maintenant, sont en ébullition parce que chacun se prépare. Et je trouve qu'il y a une très, très grande discipline et une forme de résilience tout à fait admirable parce que il y a encore peut-être 2 mois, on aurait dit qu'il fallait des visières, qu'il fallait du marquage au sol, qu'il fallait du plexiglas. Chacun aurait trouvé ça juste surréaliste. Et en fait, chacun s'y met. Et chacun fait du mieux qu'il peut.
Alors, les écoles, Agnès Lebrun, vous allez rouvrir toutes vos écoles. Comment avez-vous procédé?
Alors, nous avons fait comme tous les maires de France, c'est-à-dire que nous avons d'abord pensé que c'était impératif de tout faire pour que les écoles rouvrent parce que nous sommes très attachés à l'école comme lieu d'émancipation. Donc, il nous a semblé essentiel d'absolument tout mettre en ordre de marche. Et puis, nous avons aussi beaucoup grogné parce que ce protocole sanitaire de 63 pages qui est tombé massivement sur nos bureaux avec une vision de la réalité assez déconnectée, il faut bien le dire, nous a mis des bâtons dans les roues. Et malgré ça, nous avons envoyé un questionnaire aux parents pour avoir une sorte de tendance. Et là, nous avons constaté que 60% des parents n'avaient pas l'intention de mettre leurs enfants à l'école et 40% voulaient les mettre. Et puis ensuite, nous avons rencontré les directeurs d'école avec qui nous avons beaucoup travaillé. Et puis, avec les services techniques, nous avons fait le tour des écoles parce qu'il y a un déterminant dans cette histoire, c'est la configuration des locaux, bien entendu. La largeur des couloirs, la superficie des salles, y a-t-il une cantine, y en a-t-il pas, etc. Et ensuite, on a eu quelques jours pour se battre, pour essayer de faire que les choses se passent le mieux. Et finalement, mardi, toutes les écoles rouvrent. Mais par contre, école par école, les directeurs d'école vont accueillir ou pas chaque niveau. C'est-à-dire que la fonction des collectivités, c'est de préparer un cadre pour que l'exercice pédagogique puisse se faire. Mais l'exercice pédagogique n'est pas de la responsabilité, bien sûr, des maires.
Alors, à peu près dans quelle proportion allez-vous accueillir les enfants qui sont normalement scolarisés? Et est-ce que vous accueillez aussi les enfants de maternelle?
Alors justement, par rapport à ce questionnaire des parents, donc on était à 60-40 et ça s'est inversé, c'est-à-dire que on a à peu près 60% des élèves qui seront présents, en tout cas inscrits, parce qu'il était évidemment tout à fait nécessaire que ça soit sur inscription, parce qu'à 2 élèves ou 3 élèves près, quand on ne peut pas dépasser 15 par classe, bien sûr, toute l'organisation peut tomber et n'est plus opérationnelle. Donc on accueille effectivement tous les niveaux, mais selon les écoles, il y aura ou pas des matériaux maternelle, mais les enseignants se sentaient prêts, certains étaient partagés. Donc encore une fois, par rapport à la configuration des locaux, ce sera différent, mais il est vrai que pour les maternelles, c'est très compliqué, parce que, bien entendu, le contact physique est essentiel pour un petit enfant, mais dans le même temps, le raisonnement qui consiste à dire qu'il faut que les enfants reviennent à l'école pour un motif économique, si on n'accueille pas toute une fratrie, eh bien, évidemment, la reprise économique ne peut pas se faire. Je crois que ce qui a pêché, entre autres, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous ont beaucoup irrité, mais entre autres, c'est que on avançait plusieurs motifs. Déjà, les instructions étaient contradictoires, et notamment en termes de calendrier, mais soit c'est le motif sanitaire, soit c'est le motif économique, soit c'est le motif social. Mais évidemment, on n'approche pas ces trois motivations de la même façon. Enfin, dans tous les cas, nous serons prêts et nous assurons, et c'était vraiment notre volonté, une restauration correct, c'est-à-dire non pas un sandwich pris sur la table de classe, ouais. C'était une des mesures et une des injonctions tout à fait surréalistes. Enfin, quand même, imaginez que un enfant puisse prendre un repas à table, sa table de classe, river d'une certaine façon à sa table de classe, c'était complètement bizarre et à croire qu'on ne se souvient pas d'avoir été enfant pour certains rédacteurs de ce guide, mais nous avons tenu beaucoup à ce qu'il y ait un repas chaud qui soit servi. Et donc il y aura ce repas chaud. En revanche, il n'y aura de la garderie que pour les enfants des soignants et les missions
finalement spéciales. Finalement, tout cela, Agnès Lebrun, vous avez pu l'organiser et le décider comme vous le vouliez, en responsabilité, évidemment, en respectant ce protocole sanitaire, ou il vous a fallu composer, négocier avec l'État, en l'occurrence le préfet ou le sous-préfet ?
Nous n'avons rien négocié parce que nous n'avons eu aucun contact. Ce que nous avons déploré à l'Association des maires de France, c'est que, comme en temps ordinaire du reste, mais là, évidemment, dans un contexte de crise, c'est exacerbé, c'est que la décision précède la concertation et pas l'inverse. Alors qu'on aurait gagné à la fois du temps et on n'aurait pas eu ce retard à l'allumage puisque les choses progressivement se sont mises en place, mais avec beaucoup de difficultés, beaucoup de contraintes, beaucoup de travail aussi. Enfin, il faut imaginer qu'il y a des agents municipaux derrière. Les agents municipaux aussi ont beaucoup travaillé. Et si nous avions été concertés, si nous avions eu un minimum de consultation et de concertation avant la décision, nous aurions pu faire des retours d'expérience dont nous disposions, puisque nous avions mis en place en général un système minimum d'accueil. Nous avions accueilli les enfants des soignants pendant les vacances scolaires. Mais là, oui, tout a été verticalisé, tout a été descendant. Nous ne sommes pas des frondeurs, ou nous ne sommes pas des boudeurs, nous ne sommes pas de mauvaise volonté. Un maire de mauvaise volonté, pardon, mais ça n'existe pas. Le maire, il peut ou il ne peut pas. Et en l'occurrence,
mais
pour
par
ce
exemple, qu'est-ce que vous auriez proposé ?
C'est tout pour pouvoir. Eh bien, par exemple, nous aurions proposé que dans le référentiel commun que nous voulions, puisque c'est important qu'il y ait un référentiel commun d'une part et ensuite une appréciation locale, nous aurions pu indiquer que cette histoire de repas était stupide, que les maternelles, il fallait faire très attention, que le gel hydroalcoolique, c'était impossible pour des enfants puisque précisément c'était alcoolique, que le savonnage des mains, ça posait des questions parce que suivant la configuration des locaux, il y avait évidemment des lavabos suivant les époques de construction des écoles, des lavabos plus ou moins éloignés des salles de classe, etc. Donc il y avait plein de choses extrêmement concrètes et extrêmement pragmatiques. Les maires ne sont pas des administrateurs de l'État. Les maires sont d'abord à l'initiative, ils ont la responsabilité pénale, ils ont l'engagement juridique, donc ils sont tout à fait conscients des responsabilités qu'ils ont à assumer, et par conséquent, ils ont une analyse tout à fait fine de ce que le quotidien leur apporte. Et c'était dommage, simplement, de s'exonérer de cette ressource-là.
Alors justement, sur le plan de la responsabilité, vous demandez, vous aussi, des protections supplémentaires ?
Oui, alors, il y a eu, je crois, un petit mauvais clapotis rampant ces derniers jours. On avait tendance à imaginer, et on l'a dit, répété, entendu, que les maires, finalement, cherchaient à se couvrir. Et que, d'une certaine façon, quand ils voulaient des responsabilités, quand on leur en donnait, eh bien, ils trouvaient que c'était un peu trop. Non, les maires ne cherchent pas à se couvrir. Les maires assument leurs responsabilités tous les jours. Lorsqu'il y a un arbre qui tombe sur une voiture, le maire est en première ligne. Et il peut être condamné à titre individuel. Beaucoup de gens ignorent que le maire est en fonction et à ce titre est responsable de ce qu'il fait et de ce que sa collectivité fait. Mais il est responsable aussi individuellement. Généralement, d'ailleurs, on souscrit deux assurances. Une pour sa fonction et une pour sa personne. Et ce que nous demandions, nous, c'est que la responsabilité pénale qui pouvait être engagée dans ce contexte de crise sanitaire à la réouverture des écoles qui nous était non pas imposée mais qui nous était fortement suggérée, eh bien ce soit la commune, personne morale qui soit responsable, mais pas le maire à titre individuel. Et le sénateur Moret, qui avait présenté une proposition de loi devenue amendement, allait dans ce sens. Le Premier ministre l'a refusé, bon très bien, mais je trouve dommage que on ne se soit pas saisi de cette occasion pour finalement clarifier un certain nombre de choses, et on voit bien qu'il n'est pas logique. Enfin, chacun pourra comprendre que être traîné en justice pour des motifs qui parfois peuvent aboutir à, évidemment, une non-condamnation, eh bien, pendant des années, être traîné en justice, ça n'a pas de sens. On a beaucoup de maires qui refusent d'ailleurs de se représenter pour cette raison. Parce que dans une société qui est très judiciarisée, il était important, peut-être, de se saisir de l'occasion pour pousser un peu plus loin la protection juridique et, encore une fois, ni l'impunité, ni l'immunité. Il ne s'agit pas de ça.
Un dernier mot, Agnès Lebrun, sur l'éventuelle réouverture des plages. Bon, il n'y a pas de plage à Morlaix, mais vous avez un port de plaisance et puis de très belles plages toutes proches, à Carantec notamment. Oui. La réouverture est en bonne voie ?
Oui, alors la réouverture est en bonne voie, mais vous voyez, c'est exactement finalement la bonne conclusion de tout ce propos que nous venons de tenir. C'est que lorsque les choses sont descendantes, verticalisées et assez déconnectées du terrain, ça ne peut pas marcher. Comment voulez-vous, dans un département où il y a 1300 kilomètres de côte, qui est notre département du Finistère, dans un département où toutes les plages permettent un grand espace et sont le quotidien des gens, c'est-à-dire qu'au pied de la maison, il y a la plage, mais pas la plage avec la crème à bronzer et les serviettes de bain côte à côte, bien entendu, mais une plage dynamique où on fait des activités nautiques. Alors on a obtenu gain de cause parce qu'on a eu un bel élan collectif avec nos camarades de la façade atlantique. Pour l'instant, évidemment, nous attendons le décret, mais tous les maires, évidemment, se sont précipités pour demander la réouverture des plages à juste titre auprès de leur préfet. Espérons que le dialogue soit constructif et efficace et que rapidement, on puisse reprendre aussi une activité tout simplement physique de marche et de bateau. Les activités nautiques pour l'Atlantique, c'est fait. Pour la Manche, c'est en cours. Mais là, encore une fois, si la parole avait été entendue, non pas pour faire du lobby, mais juste pour du bon sens, peut-être aurions-nous épargné quelques heures de discussion qui n'ont pas été stériles pour le coup. Donc, il faut s'en réjouir.
Merci beaucoup Agnès Lebrun, maire de Morlaix, d'avoir été en ligne avec nous ce matin depuis la Bretagne. Merci à vous.
Europe 1.
Dans un instant, deux enseignants qui n'ont pas vu leurs élèves depuis près de 2 mois et qui ne les verront sans doute pas tous d'ici l'été. Une directrice d'école parisienne, Pauline Groix, et un prof de collège de Seine-Saint-Denis, Yanis Rodera, tout de suite.
Europe 1. Comme chaque samedi, de 9h à 10h, vous êtes avec Patrick Cohen pour cette arrivée cette semaine.
Bonjour Pauline Groix.
Oui, bonjour.
Directrice d'école dans le 20e arrondissement de Paris, avec en temps normal 200 élèves de la petite section de maternelle au CM2. La classe va reprendre, vous redémarrez la semaine prochaine ?
Bah évidemment, oui, on va reprendre avec 35 élèves dans un premier temps. On est réparti en 6 groupes, de la maternelle jusqu'au CM2. On réouvre un groupe dans chaque niveau pour pouvoir accueillir tous les enfants prioritaires.
35 seulement,
oui, 35 seulement.
Sur 200. Comment avez-vous procédé ?
Eh bien, on a établi une liste en fonction des priorités qui nous avaient été données. Des élèves prioritaires parmi les enfants de soignants, de pompiers et de toutes ces fonctions prioritaires indispensables. Ensuite, on a aussi fait le point sur tous nos élèves décrocheurs. On en a quelques-uns. Tous nos élèves en grande difficulté. Nos élèves en situation de handicap également. Les élèves dans les niveaux charnières, donc grande section, CP et CM2. Voilà, donc on a établi cette liste de 35 élèves après avoir fait un point auprès des parents. Un sondage pour savoir s'ils voulaient revenir ou pas. Et effectivement, comme le disait Madame Lebrun, on a également pu constater que 60% des familles ne souhaitaient pas une reprise, en tout cas pas une reprise tout de suite. Ils estimaient que c'était trop tôt. Voilà. Donc, à l'issue de ça, On a donc vu qu'on, enfin voilà, on a établi cette liste. Ensuite, on a mis au regard de l'exiguïté de nos locaux, notamment au niveau du réfectoire qui se trouve être assez petit, la cour également. Eh bien, nous avons donc pu voir que. Pour démarrer, je ne pouvais pas accueillir plus de 35 élèves. Voilà, entre 35 et 50 dans un premier temps.
Donc ça restera voilà. 35 donc, jusqu'à la fin de l'année scolaire.
Non, on n'espère pas. On n'espère pas. Là, c'est vraiment un démarrage petit pour déjà que nous puissions éprouver les mesures sanitaires, pour que les enseignants puissent reprendre confiance en l'école. Pour que nous puissions évaluer en fait cette capacité maximale que nous pourrons accueillir, parce que on ne sait absolument pas au regard de ce protocole sanitaire, on ne sait pas vraiment ce que ça donne sur le terrain. Et ça, on ne pourra vraiment le savoir que quand on aura accueilli des enfants. Donc c'est pour ça que c'est vraiment une première sélection. Et j'espère que dans un second temps, peut-être une semaine, peut-être début juin, nous pourrons accueillir davantage.
La principale difficulté que vous avez eu à résoudre, c'est l'architecture des lieux. Vous parliez de vos locaux exigus, la configuration, la reconfiguration des classes.
Alors la reconfiguration des classes, elle va être assez rapide. On a la chance d'avoir une école moderne avec des classes qui sont grandes, qui sont aérées. Donc il va falloir évidemment qu'on bouge les meubles, mais ce sera faisable dans ce temps qui nous a été donné pour préparer la rentrée. C'est plus au niveau des communs que nous sommes embêtés, puisque la cour, alors c'est quand même une école de 11 classes avec 200 élèves, la cour de l'école, c'est une cour d'école parisienne, hein, donc c'est pas très très grand, et dans Paris, nous ne sommes pas la seule école à avoir une petite cour. Donc en temps normal, on organisait 3 services de récré pour accueillir les 200 élèves, et ils étaient assez serrés dans cette cour. De la même façon pour le réfectoire. Le réfectoire, c'est une grande pièce qui est assez conséquente, mais pour accueillir 200 élèves, c'est en temps normal 3 services de cantine avec des enfants qui sont assis les uns à côté des autres, et il n'y a pas une seule place qui est laissée libre. Donc, dans le cadre de ce protocole sanitaire, il fallait bien tout revoir. Et ce réfectoire, si nous installons donc des enfants avec un maître qui les sépare, il faut également penser, si nous faisons plusieurs services, à désinfecter les places entre-temps. Enfin, voilà. Donc, c'est les grandes questions qui se posent aujourd'hui sur notre capacité à accueillir dans le cadre de ces mesures sanitaires.
Pauline Gros, vous restez avec nous. On va essayer d'améliorer votre liaison qui n'est pas fameuse et qui est coupée par moments sur le plan technique. Et on va poursuivre ce dialogue dans un instant après une pause avec l'un de vos collègues, prof de collège en Seine-Saint-Denis, Yannis Roder. A tout de suite.
Europe 1. On vous retrouve, Patrick Cohen, jusqu'à 10h pour cette arrivée cette semaine sur Europe 1.
Avec Pauline Gros, directeur d'école à Paris 20e et à présent un prof d'histoire géo dans un collège de Seine-Saint-Denis, présidente de l'Observatoire de l'éducation à la Fondation Jean Jaurès. Bonjour Yannis Roder.
Bonjour Patrick Cohen.
Vous ne savez pas encore quand vous reverrez vos élèves. Les collèges de région parisienne ne rouvriront pas comme dans les zones vertes le 18 mai. Plus de 2 mois sans école, c'est long, c'est inquiétant.
Ah oui, c'est long, c'est très long. Alors évidemment, c'est long pour moi, mais c'est surtout long pour mes élèves qui me le disent, hein, qui régulièrement me posent la question, monsieur, quand est-ce qu'on retourne au collège, et qui font savoir que voilà, pour eux, c'est très difficile. Et effectivement, c'est donc très long.
Vous avez des élèves qui n'ont pas donné de nouvelles, qui ont décroché, comme on dit, qui n'ont pas assuré cette continuité pédagogique dont parle le ministère.
Écoutez, très vite, en fait, nous nous sommes rendus compte que nous n'arrivions pas à établir de contact téléphonique, par mail, avec des familles, avec des élèves qui ont disparu, qui ont tout simplement disparu. Évidemment, les établissements scolaires, dont le mien, font un gros travail pour aller chercher ces élèves, hein, téléphoner tous les jours, essayer de joindre les familles, essayer de joindre les parents, mais parfois n'y parviennent pas. Et à peu près, on peut estimer, je pense aujourd'hui, à 25-30% le nombre d'élèves qui ont totalement décroché scolairement depuis le 17 mars.
Dans votre collège, dans le département ?
Dans mon collège, mais en ayant discuté avec les conseillers principaux d'éducation de mon établissement et qui se renseignent sur les collèges notamment de Saint-Denis et des communes avoisinantes, c'est à peu près la même chose qu'on retrouve partout. Et c'est un peu plus grave même en lycée professionnel où parfois ce sont 50% des élèves qui ont décroché.
C'est considérable. Et cela malgré les relances des services scolaires ou académiques qui ont tenté de reprendre le contact ?
Bien sûr, qui n'ont cessé depuis la mi-mars de tenter d'établir un contact avec les familles. Alors parfois, ce contact est établi puis il est à nouveau perdu. Les familles ne répondent pas, les enfants ne répondent pas. C'est très compliqué.
Il faut absolument, selon vous, Yannis Roder, qu'il y ait une reprise de contact physique, si je puis dire, avec ses élèves avant l'été.
Moi, j'en suis convaincu. Je suis convaincu qu'il faut que ces élèves reviennent à l'école. Alors, évidemment, la question des apprentissages est une vraie question, mais cela va au-delà de la question des apprentissages. Cela concerne la question de la socialisation de ces élèves. Parce que l'école, c'est un lieu où on a des rythmes, on a un cadre, c'est un lieu qui physiquement est différent de celui de la maison. C'est pour ça que l'école à la maison, c'est quand même très compliqué. Le fait de faire le chemin de l'école, eh bien, vous changez d'espace, vous changez de lieu, vous n'êtes plus dans le même endroit. C'est extrêmement important. Et comme le disait Madame le maire de Morlaix tout à l'heure, l'école, c'est aussi un lieu d'émancipation. Or, là, il n'y a plus d'émancipation possible, les élèves sont dans leur milieu, ils n'en sortent pas, ils sont enfermés quand l'école est un lieu d'ouverture, et notamment d'ouverture au monde et ouverture de l'esprit. Ça me semble extrêmement important qu'il y ait un retour à l'école avant les grandes vacances pour éviter qu'il y ait presque 6 mois sans école.
Et ces 2 mois perdus, c'est rattrapable sur un strict plan pédagogique, Yannis Roder ?
Alors, c'est effectivement 2 mois, voire si nous rentrons nous début juin, ce sera 2 mois et demi perdus. Ce sera très difficile. Ce sera très difficile. Il ne faut pas se faire d'illusions. Quand certains élèves de d'autres établissements, parfois des quartiers centraux, j'ai des exemples de collèges ou de lycées parisiens où tous les élèves suivent. Et quand il y a des cours en visioconférence, quand ils sont 35 dans la classe, eh bien ils sont 35 en visioconférence. Moi, quand je fais des cours en visioconférence, que je fais toutes les semaines avec mes élèves, sur 20 ou 22 élèves, j'en ai la moitié qui sont présents parce que pour faute de matériel, faute d'une bonne connexion internet ou faute tout simplement d'envie, hein, et donc ils ne sont pas là. Donc les élèves de centre-ville, des beaux quartiers, on va dire, je vais simplifier en disant des beaux quartiers, il n'y aura pas de problème. S'ils ont un petit peu de retard, ils rattraperont. Chez nous, ça va être beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué, et j'ai peur que certains ne rattrapent jamais ce retard.
Que suggérez-vous, Yannis Roder, pour la suite ?
Oh, écoutez, je n'ai pas de grandes idées à proposer. Je crois qu'il faudra tenir compte de cette réalité. Peut-être qu'à la rentrée prochaine, dans les classes supérieures, parce que les élèves vont quand même franchir les paliers, il faudra prendre du temps en septembre, octobre, pour revoir ce qui n'a pas été vu, espérer que les professeurs et les autorités donneront des... D'abord, les professeurs feront cela, et puis les autorités donneront des indications pour justement essayer de combler ce qui n'a pas pu être vu dans certains territoires, en essayant de ne pas trop amputer le programme suivant, évidemment. Mais enfin, ça me semble absolument essentiel.
Alors, je me tourne à nouveau vers Pauline Groix, directeur d'une école maternelle et primaire à Paris. Pauline Groix, est-ce que les dommages sont aussi grands pour les enfants de petites classes, c'est ce que semble considérer le gouvernement, le ministre Blanquer, ce qu'il a dit pour justifier le redémarrage prioritaire des primaires et des maternelles.
Alors, je pense qu'effectivement, alors, on ne va pas nous voir 25%, 35% de décrocheurs, parce que le lien avec les familles était quand même assez fort avant cette histoire de confinement et de fermeture des écoles. Donc effectivement, et puis il y a aussi une proximité, hein, l'école elle est quand même dans un secteur où toutes les familles sont tout autour. Donc ça a été plus facile peut-être pour nous d'aller chercher régulièrement ces élèves dont on n'avait plus de nouvelles ou qui ne renvoyaient pas le travail des enseignants. Qui semblait ne plus travailler. Donc, ça a été effectivement le cas pendant ces deux mois. Malgré ça, on voit quand même effectivement que il y a des familles qui se sont complètement renfermées sur elles-mêmes. Le coup de téléphone de la directrice qui dit bah alors qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que j'en ai plus de nouvelles, ne fonctionne plus. Donc, effectivement, ça devient long. Et la réouverture de l'école est importante pour ça. Est-ce qu'on va avoir perdu deux mois? Non, je ne crois pas. Je pense qu'on a quand même réussi à les faire avancer un maximum. Alors peut-être pas de façon égale dans tous les niveaux, peut-être pas de façon égale dans toutes les familles, c'est vrai. Mais globalement, les élèves auront avancé. Est-ce qu'ils vont pouvoir rattraper ce retard? Je suis assez d'accord. Je pense que ça va dépendre également. Ça va dépendre de la famille, ça va dépendre du milieu de l'enfant. Et il y aura des dommages qui seront effectivement impossibles à rattraper, ou en tout cas qui seront rattrapables dans les années à venir, parce que l'enfant a encore toute sa scolarité devant lui.
Yannis Rodet, Yannis, oui. Oui, je vous en prie.
Non, j'allais ajouter qu'effectivement, nous, ce qu'on ressent là aujourd'hui, c'est que on a de nouveaux élèves en fait qui perdent le fil avec le temps, parce que effectivement, le fait d'être dans leur famille et de ne pas mettre les pieds à l'école, ben ça fait que l'école perd tout son rôle émancipateur, et c'est je crois la vraie raison de cette réouverture. Enfin, en tout cas ce qui porte mes enseignants aujourd'hui, c'est de se dire d'une part qu'ils vont revoir leurs élèves, parce que ça c'est une grande frustration aussi de s'être dit au revoir comme ça. Donc là non, on est ravis de revoir nos élèves, de les revoir on espère tous avant la fin de l'année. Et ensuite de reprendre ce rythme, de reprendre ce cadre dont parlait Yannis Roder. Voilà.
Pauline Groix, Yannis Roder, vous restez avec nous, on se retrouve dans une minute.
Europe 1, jusqu'à 10h, vous écoutez C'est arrivé cette semaine avec Patrick Cohen.
Avec Pauline Groix, Yannis Roder, à deux jours de la réouverture des écoles, mais pas encore des collèges et des lycées, je voudrais qu'on parle quelques minutes de l'enjeu sanitaire de la réouverture de ces établissements. Yannis Roder, chez les adolescents à qui vous enseignez, est-ce qu'on ne peut pas redouter des comportements à risque ou une forme d'insouciance à l'égard d'une maladie qui touche très peu leur classe d'âge? Est-ce que les consignes sanitaires ne seront pas forcément plus difficiles à faire respecter dans les lycées et les collèges?
Écoutez, seul l'avenir le dira, parce que effectivement, bon, un adolescent, c'est un adolescent, et effectivement, c'est parfois compliqué de tenir les élèves, et le fait de cette distanciation physique nécessaire aujourd'hui, c'est vrai que quand on imagine l'ouverture des écoles ou des établissements scolaires d'une manière générale, c'est la grande question. C'est évidemment la grande question. Comment on va faire respecter cette distanciation physique entre les élèves? J'ose même pas imaginer. En maternelle, dans l'école de Mme Groix, mais effectivement, on ne sait pas. On ne sait pas. Ça va être difficile, ça va être compliqué. Maintenant, pour avoir mes élèves pratiquement tous les jours au téléphone ou en visioconférence, ils sont extrêmement conscients des enjeux. Ils sont extrêmement conscients du danger. Certains ont été touchés directement dans leur famille. Ils ont parfois perdu des gens, perdu des proches. Donc ils connaissent tout cela. Je pense que cela jouera aussi dans leur comportement.
Ils savent que s'ils sont quasiment invulnérables, ils portent une part de responsabilité pour les autres, pour leurs proches.
Ah oui, tout à fait. J'ai par exemple, en discutant il y a 2 jours avec une élève, elle me disait, moi je ne peux pas venir au collège, je ne viendrai pas, de toute façon ma mère ne veut pas. Alors j'ai essayé d'expliquer en quoi c'était important. Elle me dit, mais monsieur, mes parents sont âgés. Si moi, j'attrape quoi que ce soit, je mets mes parents en danger de mort.
Oui. Pauline Groix, comment parler aux enfants de toutes les règles édictées par le protocole sanitaire? Ce sera une école de la discipline?
Oui. Ben alors déjà, on va essayer de marquer au sol et par des pictogrammes un maximum d'informations pour les enfants. C'est pour ça aussi que nous commençons avec 35 élèves. L'idée, c'est quand même de commencer petit pour formater ces enfants aux mesures sanitaires. Puis ensuite, on en accueillera un petit peu plus et on pourra se concentrer sur l'enseignement des mesures sanitaires pour ces nouveaux élèves, etc., etc. L'idée, c'est un peu ça, mais effectivement, voilà, des marquages au sol, des pictogrammes, des interventions en classe par les maîtresses, un accompagnement régulier pour le lavage des mains. Mon inquiétude, effectivement, ça va être en maternelle. Comment faire comprendre à un enfant qui ne peut pas aller jouer avec son copain, qui ne peut pas prendre un jouet, qui ne peut pas se déplacer en classe? Comment lui faire admettre qu'il y a un mètre de distance à observer. Ça, en maternelle, en petite section, c'est de l'ordre de l'impossible. Donc, on va le faire par l'intermédiaire de jeux. On va essayer, autant que faire se peut, de leur inculquer un maximum de ces mesures sanitaires et évidemment, on fera au mieux et avec le sourire.
Vous avez peut-être vu, Pauline Groix, qu'au Danemark, où l'école a repris, les enseignants font classe chaque fois qu'il est possible à l'extérieur, en s'installant dans des parcs en plein air. Est-ce que c'est une bonne idée? Enfin, ça pourrait l'être si les parcs de Paris n'étaient pas fermés.
C'est ça, si les parcs de Paris n'étaient pas fermés. Et comme je vous ai dit, la cour est petite. Et comme j'ai des élémentaires et que voilà, je vais accueillir 35 élèves pour l'instant, j'ai besoin de cette cour parce que les roulements, je vais les maintenir. On ne peut pas brasser les élèves, donc je ne peux pas mettre je peux pas mettre 2 groupes en même temps dans cette cour de récréation. Donc si j'utilise la cour pour en plus faire la classe aux enfants, je vais m'arracher les cheveux encore un peu plus.
Bon, ça fait beaucoup de complications, mais vous nous avez dit, vous avez une équipe enseignante qui est quand même motivée et stimulée par ce redémarrage ou cette tentative de redémarrage.
Oui, tout à fait. Ils sont motivés. Ils ont besoin de redémarrer également. Après, certains ont peur. On est tous un petit peu angoissés. Mais je crois que justement, ce redémarrage va permettre d'apaiser ça assez rapidement. Et je crois que ça, c'est très important de rouvrir l'école avec ce petit nombre au début, pour pouvoir justement reprendre confiance dans l'école pour les enseignants, pour les enfants et pour les familles. Parce que aujourd'hui, ce que je remarque également, ce que je déplore, c'est que ces enfants qui ont décroché, dont on parle, ne sont pas ceux qui vont revenir. Ne sont pas pour tous en tout cas. Il y a certaines familles que je n'arrive pas à récupérer, à faire revenir à l'école pour l'instant parce que leur peur de la contamination est plus importante que l'importance de l'école dans leur famille. Et donc je ne touche pas ces enfants décrocheurs pour lesquels on est censé justement réouvrir l'école. Donc c'est une mission là que j'ai d'essayer de les convaincre par tous les moyens. Donc je vais les rappeler. Il faut que je leur montre que l'école peut refonctionner. Il faut que je leur montre que leur enfant peut retourner à l'école dans une sécurité maximale. Et donc ça, il faut effectivement qu'on puisse éprouver nos mesures sanitaires. Et ensuite, je pourrais tout à fait leur dire également que ces familles ont fait le choix de rester à la maison, mais alors du coup, ils ont l'obligation de maintenir ce lien, mais on sait que quand même dans les faits c'est assez compliqué de voir le travail fait, de récupérer les devoirs, de récupérer, d'avoir une idée du travail et de comment a été fait le travail à la maison. Donc voilà, ma priorité aujourd'hui c'est de récupérer tous ces élèves là également.
Merci à vous deux, Pauline Groix et Yanis Roder. J'aimerais que vous restiez en ligne pour écouter ce que va nous dire Barbara Cassin dans un instant, la philosophe et académicienne, a quelques idées sur ce qu'on pourrait faire de cette école déconfinée, par exemple aller faire classe dans des lieux de culture aujourd'hui fermés. À tout de suite.
Europe 1. Jusqu'à 10h, vous retrouvez Patrick Cohen pour cette arrivée cette semaine sur Europe 1.
Bonjour Barbara Cassin.
Bonjour.
Barbara Cassin de l'Académie française, vous y avez été élue il y a 2 ans, philosophe polyglotte, spécialiste du langage. Vous avez beaucoup travaillé sur le sens des mots et leur pouvoir. Qu'est-ce qu'ils nous disent, les mots du confinement? Et d'abord, ce mot qui n'existe pas, déconfinement, qui a été inventé pour l'occasion.
Oui. Vous savez, un contre-torpilleur est d'abord et avant tout un torpilleur. Alors le déconfinement, tel qu'on l'imagine à l'école pour l'instant, c'est surtout un confinement. C'est un reconfinement avec des règles un tout petit peu assouplies, mais c'est quand même encore un enfermement. Voilà. Donc
Le langage, oui. Ça vous inquiète. Et le langage militaire qui a aussi beaucoup ressurgi pendant cette période avec ses guerres, ses tranchées, ses premières lignes.
Oui. Le problème, c'est qu'une guerre, en général, ça a des ennemis, et les ennemis, c'est des hommes. Alors, est-ce que les ennemis qu'on combat, c'est pas cette abstraction du virus, mais c'est ceux qu'ils portent? Donc ça, c'est assez grave. Et peut-être que les brigades d'anges gardiens vont combattre des hommes.
Oui, alors brigade, voilà, ça c'est un mot qui vient de surgir dans le débat public, parce que ce sont censés être des brigades chargées de remonter les chaînes de contamination, d'enquêter sur les contacts de chaque malade, et brigade, ça va pas du tout. Hein.
Non, ça me choque beaucoup, et je trouve que c'est conjoindre la guerre, et peut-être la pire, c'est-à-dire, les brigadistes, c'est pas forcément des gens très sympathiques, disons le plus bêta des catéchismes, hein, les anges gardiens. Donc moi je veux bien des anges gardiens, mais alors à ce moment-là, qu'ils ne remontent pas simplement les chaînes de contamination, qu'ils apportent à bouffer quand on n'en a pas.
Ouais. Qu'est-ce que vous suggérez en remplacement de tous ces mots, ouais. ou le confinement? On aurait peut-être pu trouver un autre mot que le confinement.
Oui,
c'était.
Par exemple, au lieu de déconfiner l'école, je propose qu'on l'ouvre. C'est-à-dire, si on réfléchit un petit peu à ce devant quoi on est devant des espaces fermés, très nombreux, hein, et qui vont le rester, hein, des musées, des cinémas, des théâtres, des jardins publics, des bibliothèques. Eh bien, au lieu d'avoir d'une part des enfants quand même très confinés et très peu, donc, dans des lieux fermés qui seraient des classes, essayons d'ouvrir l'école sur les lieux qui sont aujourd'hui fermés et qui sont des lieux de culture et de nature. Je pense aussi au complexe sportif et je pense aussi aux forêts et aux plages. Donc, admettons qu'on combine l'ouverture de ces lieux sociaux de culture et de socialisation. Et les personnels compétents qui sont aujourd'hui au chômage partiel ou au chômage total, excusez-moi, mais c'est pas le Covid, hein. C'est un chat dans la gorge. Non,
je vous en prie, Barbara Cassin, je vous en prie.
Admettons qu'on
donc
ouvre
sortir les
sur la société.
Oui.
Qu'on fasse en sorte que entre la classe habituelle et les vacances habituelles, on invente quelque chose comme une école ouverte sur le dehors, et que ces élèves décrocheurs qu'on n'arrive pas à capter, eh bien on les emmène voir des choses que peut-être ils n'ont pas encore eu vraiment l'occasion de voir, et surtout pas eu l'occasion d'entendre expliquer, qu'on les emmène dans les lycées, dans les bibliothèques, dans les théâtres, et qu'on travaille avec eux à l'aide de tous ceux qui aujourd'hui sont sans travail, depuis les gardiens de square et de musée jusqu'à ceux qui s'occupent du théâtre vivant. Peut-être qu'on va changer l'appréhension qu'ils peuvent avoir et que tout le monde peut avoir de la culture et de la société. Peut-être que c'est ça de faire aujourd'hui, demain.
Un exemple, Barbara Cassin, où aimeriez-vous les voir en priorité, ces classes d'enfants de cette école déconfinée?
Moi, j'aime beaucoup les musées. Je trouve que c'est quelque chose de très intéressant. Quand c'est pas mort, eh bien, on pourrait faire vivre les musées comme ça. On peut les emmener, je pense à Paris, eh bien, emmenons-les à Beaubourg et emmenons-les au Louvre. Et faisons ça dans le strict respect des règles sanitaires, mais avec des gens qui d'habitude ne sont pas tellement impliqués. C'est-à-dire aussi, ça peut être des artistes qui sont capables de lire un bout, je vous dis n'importe quoi, parce que je pense à ma paroisse, mais des artistes qui sont capables de lire un bout d'Homère dans la salle des cariatides, vous voyez, ou un bout de... Bon, pourquoi pas? Et ça, c'est magnifique. C'est magnifique pour... moi, je travaille beaucoup avec les élèves d'Aubervilliers ou les élèves de Marseille, du secteur du Vieux-Port. Mais c'est magnifique, ouais, de leur faire entendre ça. Ils en ont besoin, comme vous et moi, d'ailleurs.
Barbara Cassin, est-ce que vous permettez que je soumette immédiatement votre idée à une directrice d'école et un prof de collège, ceux qui étaient avec nous il y a quelques minutes?
Mais très
Pauline Groix.
Oui. Oui.
Pauline Groix, vous oui, avez entendu Barbara Cassin?
Tout à fait, tout à fait. Alors c'est vrai que les faire sortir pour dans les musées de toute façon, il va falloir que l'on repense l'école pour ces élèves-là parce qu'elle a été un lieu de peur et que il faudrait qu'on prenne justement cette occasion pour réouvrir l'école autrement. Alors aujourd'hui, on a pas cette possibilité-là, mais ça peut être effectivement un objectif de repenser l'école d'après.
Bah, l'idée, là, c'est quand même de profiter de la fermeture de certains lieux, notamment les plus grands musées qui restent fermés, comme le Louvre. On a pris l'exemple du Louvre ou de Beaubourg, qui sont fermés parce qu'ils sont trop vastes et que si on les ouvre, les foules seront trop nombreuses pour respecter les précautions sanitaires, pour les ouvrir simplement aux scolaires et aux écoliers. Yannis Roeder, qu'en pensez-vous?
Écoutez, vous savez, Patrick Cohen, ce qu'a dit Madame Cassin, l'école ouverte, le principe de l'école ouverte, le nom même, le concept même d'école ouverte est quelque chose qui existe, puisque durant les vacances scolaires, les écoles restent ouvertes une partie du temps pour justement permettre aux élèves qui s'inscrivent à cette école ouverte, et notamment les élèves qui ne partent pas en vacances, bah justement d'aller visiter des musées, de faire des activités autres, de continuer l'école mais autrement. Et finalement, ce que propose Barbara Cassin, moi je trouve que ça s'inscrit complètement dans cette logique-là, permettre de continuer l'école autrement, en profitant, oui, de la fermeture actuelle des grands musées, de ces espaces qui sont vides de gens, mais qui sont remplis de savoir et qui sont offerts effectivement aux élèves. Maintenant, il y a des vrais problèmes logistiques, tout simplement. Les parents qui ont peur que leurs enfants retournent à l'école ou au collège auront peur que leurs enfants prennent les transports en commun. C'est peut-être idiot, tout simplement, ce que je dis, mais c'est la réalité. Donc effectivement, l'idée me semble très belle et très intéressante. Et bien sûr, quand l'école est un lieu d'ouverture au monde et d'émancipation, il faut profiter de ces espaces que sont les grands musées, ces grands espaces de culture, avec les contraintes que nous avons malheureusement.
Avec les contraintes, Barbara Cassin.
Oui, oui. Je sais bien que l'école ouverte est un programme qui existe et qui est passionnant. Et c'est même pour ça que je dis ouvrons l'école, hein, au lieu de la déconfiner. Mais on peut très bien réfléchir à quels sont les lieux qui sont proches. J'entends bien, hein, le problème des transports. Quels sont les lieux qui sont proches des écoles qui s'ouvrent, n'est-ce pas? Je dis le Louvre et Beaubourg, voilà. Mais bien entendu, il y a des lieux auprès de... par exemple, à Marseille, il y en a plein, à distance de pied, si j'ose dire. Hein? Par exemple, du côté du Vieux-Port, il y a beaucoup de musées qu'on atteint en marchant. Bien sûr. Et je pense que du côté de Saint-Denis, il y en a aussi. Donc c'est cela qu'il faut viser. Et il faut viser à chaque fois, il faut faire du cas par cas, du singulier, mais avec une règle générale qui est l'ouverture dans les lieux qui aujourd'hui sont fermés, avec le personnel d'encadrement qui aujourd'hui ne travaille pas et ne se considère d'ailleurs pas, et à juste raison, comme un personnel d'encadrement. Mais je veux dire, il faut faire en sorte que les professeurs soient autre chose que des flics dans les semaines qui viennent, et des gardiens, vous voyez. Et donc que tout le monde contribue à donner sa portion de compétences et de savoir.
Barbara Cassin, j'espère que cette idée va faire son chemin. En attendant, vous avez vu quand même que quelques lieux de culture vont pouvoir rouvrir à partir de lundi, médiathèques, bibliothèques, petits musées, et puis aussi, très important, j'imagine que vous y êtes sensible, les librairies vont pouvoir retrouver des clients et offrir leurs étals aux lecteurs habituels.
Oui, et puis ouvrons les cinémas aux enfants et faisons-leur des séances de films un peu différentes de ce qu'ils voient à la télé. Et puis ouvrons les théâtres, ouvrons les rues avec les spectacles de rue. Et tout ça, régulé.
Et bien voilà, le mot d'ordre.
Oui, c'est très inquiétant parce que on est dans une... Enfin, je veux dire que la distanciation sociale, avec ce mot horrible, alors qu'il s'agit simplement d'une distance physique, elle risque d'avoir trop bien marché.
Elle risque, vous voulez dire qu'elle risque de s'inscrire dans nos habitudes pour longtemps, c'est ça ?
Oui, et d'être vraiment sociale au lieu d'être simplement physique. Sociale, il y a
merci beaucoup.
Raison, hein.
Oui, bien sûr. Merci beaucoup Barbara Cassin, merci de nous avoir accordé cette... entretien en direct ce matin, et puis je remercie à nouveau Pauline Groa et Yanis Roder, nos deux enseignants et directeurs d'école qui étaient avec nous ce matin pour nous accompagner.
Europe 1.
C'est tout pour aujourd'hui, je vous retrouve demain 9h pour C'est arrivé demain. Dans quelques minutes après les infos de 10h, ce sera le moment de Mediapolis. Bonjour Olivier Duhamel.
Bonjour Patrick Cohen. Mediapolis,
avec...
oui, avec... Jean-Louis Bourlange, le célèbre Jean-Louis Bourlange, qui a beaucoup d'esprit.
Absolument, et pas que. Bonne émission et bonne journée à l'écoute d'Europe 1.